السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous avons eu l'occasion d'entendre avec Mufti Yassine quels sont la conception, quelle est la conception de l'islam concernant le respect des parents, mais au-delà même du respect des parents, quelle doit être notre position par rapport aux personnes âgées, par rapport aux anciens, comme on pourrait le dire. Alors, nous savons tous que viendra une époque, viendra un moment de notre vie où nous allons vivre un marhala, nous allons vivre une période de notre vie qu'Allah Ta'ala décrit dans le Coran en disant Allahu alladhi khalaqakum min da'f thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Dans ce verset, Allah Subhanahu wa Ta'ala explique quelles sont les étapes de la vie, étapes auxquelles personne ne pourra y échapper, de même que nous ne pourrons jamais échapper à la mort. De la même manière, Allah Ta'ala nous fait comprendre à travers ce verset que lorsque vous êtes né, vous étiez faible. Et après la faiblesse, Allah Ta'ala vous a accordé la force. C'était la période de la jeunesse et quand on est adulte. Mais après cette période où on est plus ou moins, on possède plus ou moins toutes nos facultés, Allah Subhanahu wa Ta'ala fera retourner la période de faiblesse. C'est ce qu'on appelle la faiblesse, la vieillesse. Le verset du Coran, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Et comme on a dit, tout comme personne ne pourra échapper à la mort, personne ne pourra échapper à cette étape difficile qu'est la vieillesse, à moins qu'une personne meure jeune, bien sûr. Alors, mes chers frères, la vieillesse est une étape difficile. Pendant cette étape, l'homme ou la femme qui devient âgée peut parfois perdre son izzat, peut parfois perdre son honneur. En perdant son autonomie, un homme ou une femme qui a grandi, travaillé dur, se voit réduit à être occupé par ses enfants, cette personne en prend, passez-moi l'expression, un coup à son izzat. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre ce qu'on appelle al-haram. Al-haram c'est quoi? C'est un tel état dans la vieillesse où on est dépendant, où on est ce qu'on appelle muhtaj des autres. Que ce soit de nos enfants ou que ce soit d'autres personnes, d'infirmiers, d'infirmières ou autres, même si c'est nos propres enfants, nous devons demander à Allah ta'ala la protection contre cette étape, contre une étape de la vie où on serait dépendant des autres, où on ne serait plus autonome. Et lorsqu'une personne vieillit, même sur le plan psychologique, cette personne est affectée. Et l'entourage de cette personne, que ce soit un homme ou une femme, ressent ce changement qu'il y a. Je ne parle pas sur le plan physique, les maladies ou autre chose, mais sur le côté psychologique de la personne. Autant la jeunesse, lorsqu'on a 15 ans, 20 ans, jusqu'à 35 ou 40 ans, la jeunesse est synonyme de vitalité. Quand on est jeune, on essaie de forger sa personnalité, on essaie d'affirmer ses choix, on essaie de montrer qu'on est indépendant. Toutes ces qualités-là, ce sont les synonymes de la jeunesse. Mais lorsqu'on devient âgé, on devient faible physiquement, on devient fragile, on devient vulnérable. Lorsqu'on est âgé, ben parfois on a certaines habitudes qu'on n'aime plus changer. C'est là qu'on dit, ah, tchatchalaf, il vient maniaque, il a des manies, il ne veut pas y faire ça, il ne veut pas y faire telle chose, d'accord? Et ça peut même parfois devenir difficile à supporter, ça peut devenir, passez-moi l'expression, à la limite, agaçant, même pour les enfants de cet homme, ou les enfants de cette femme, ou alors même son mari, ou sa femme, ou son entourage. Lorsqu'on devient âgé, on oublie. On n'a plus la même mémoire que lorsqu'on avait 20 ans, 25 ans. On ne se souvient plus de tout. On a besoin d'écrire. Parfois, on se répète. Quand on dit des choses, on a besoin de dire une chose 3 fois ou 4 fois. Et on a l'impression qu'on l'a dit une fois. Par exemple, un père qui a 70 ou 80 ans, il va dire à son fils, ben, mon garçon sort la poubelle. Mais il ne le dira pas une seule fois. Il va le dire peut-être 7 ou 8 fois tous les 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'il a oublié, subhanallah. Les neurones commencent à s'affaiblir et certains à disparaître même.
Ça, c'est la morphologie de l'homme. Cette personne finit par oublier ce qu'elle vient de dire. Ce qui fait que maintenant, il risque d'y avoir des situations conflictuelles. Parce que c'est ce nouvel état. L'enfant ne reconnaît plus son père. C'est plus mon papa quand j'avais 50 ou 60, ou quand il avait 50 ou 60 ans. Il a 70 ans, 80 ans. Il a des habitudes qu'il n'avait pas avant. Donc, il va y avoir des soucis permanents entre les enfants et les parents, d'accord? Et là, pour une fois, je dis bien pour une fois, on ne va pas stigmatiser la jeunesse. Ce n'est pas des bayans contre les jeunes. Maman, ils respectent leurs parents. Non. Cela s'adresse à n'importe quel homme ou femme, musulman ou musulmane, qui a des parents vivants. Parce que même si on a 50 ans, même si on a 60 ans et que nos parents ont 80 ou 85 ans, nous restons des enfants. Et ce qu'Allah Ta'ala attend d'un jeune de 15 ans, par rapport à ses parents qui ont, allez, estimons 45 ou 50 ans, Allah attend exactement la même chose de personnes qui ont 50 ou 60 ans à l'égard de leurs parents qui ont 80 ans. Donc, toute personne qui a des parents vivants, il se sent concerné par le respect, le adab, le birrul walidain. Alors, si maintenant l'enfant est encore jeune, c'est un adolescent, on a dit tout à l'heure, il va aspirer à l'autonomie. Ben, il ne veut pas être contraint. Il ne veut pas avoir un père qui est toujours, on pourrait dire, derrière lui pour lui téléguider dans ses choix. Fais ça, fais pas ça, ça c'est pas bon, moi m'y connais mieux. Parce que le jeune, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Je suis sûr de mes choix. J'ai ma conception de la vie. Je connais plus que mes parents. Ben, on n'a pas connu MSN, ben, on ne connaît pas Facebook, ben, on ne connaît pas Internet, ben, on ne connaît pas rien, on ne connaît pas GPS. Que ça vient d'un mot de leçon. Il ne faut pas expliquer à moi la vie. Taïb. Donc, ça va créer des situations conflictuelles entre ce jeune et ses parents. Et l'ancien, les parents, lui, il est sûr de son expérience. Ben, il a 60 ans. Il dit, m'a vu soleil, 50 ans avant où? Il est sûr de ses choix. Taïb. Donc, c'est une situation extrêmement délicate, difficile à gérer. La position de l'enfant, il faut le comprendre. La position des parents, nous le comprenons. Dans les deux sens, il faut que les parents aussi comprennent la position de leurs enfants adolescents. Mais là, on parle de l'autre sens, le respect des parents, des enfants pour leurs parents. Pas le contraire. Autre cas de figure, je n'ai plus 15 ans ou 16 ans, j'ai 30 ans. Ça concerne notre génération. J'ai 30 ans, je viens de me marier, il y a un an ou deux ans. Je suis toujours un enfant. Par rapport à mes parents, je reste le fils de mon père ou le fils de ma mère. Et les droits de mes parents n'ont pas changé par rapport au fait que je me suis marié. C'est pas parce que maintenant, madame, il a une tantine que maintenant, je peux marcher la tête haute. C'est pas une victoire le mariage. Ça ne nous donne pas un rang supérieur par rapport à nos parents. Nous restons les enfants. Alors, autre situation conflictuelle. Je suis marié. Je n'ai que un an de mariage. Mon papa, mon maman, n'a 45, 50 ans de mariage. Il connaît la vie. Il connaît le mariage. Il se sent en droit de vous donner des conseils dans votre couple. Eh, hey, fais pas écoute madame comme ça. Dites madame, fais pas ça, ça fait un travail pour faire ça. Eh, hey, dites Marie, vaille au bien, il doit pas sortir le là. Les parents se sentent en droit d'interférer dans le couple. Et malheureusement, c'est une des raisons pour lesquelles il y a énormément, Wallahu musta'an, énormément de divorces, c'est par rapport aux interférences qu'il y a du côté des belles familles. Dans ce sens-là aussi, il faudra peut-être un jour parler de ça pour travailler certains. Donc, la position du papa et de la maman, il veut du bien pour son fils. Mon maman, il vient de marier, il a besoin de conseils. Ma fille vient de se marier, elle a besoin de mes conseils. Mais ce jeune marié homme, ou cette jeune femme, dit, j'étais petit jusqu'à 20 ans, j'étais sous la coupe de mes parents. J'ai toujours obéi, toujours fait tout ce qu'ils veulent. Maintenant, je suis marié, ils continuent à me donner des conseils comme si je suis un gamin de 12 ans, 13 ans. Ça, c'est la position de ce jeune homme de 30 ans, on dirait à peu près 30 ans. Situation conflictuelle, il faut gérer ça. Et en plus, si le madame est un petit peu en, faut pas dire de gros mots, ben, il y aura une pression du côté de la femme. Elle choisit mon bien moins. On regarde tout ce qu'on veut, hein, d'accord, on tirera sa case, mon sinon, d'accord. Là aussi, pression de la femme, ce qui fait que même si cet enfant, quand il était jeune, il était respectueux par rapport à la pression de son épouse, il risque d'y avoir un changement dans ses rapports avec ses parents. Situation conflictuelle à gérer. Troisième cas de figure, pour être sûr qu'on a brassé tout le monde, sauf ceux qui sont décédés, ben ça c'est fini. Je suis parent, j'ai 35 ans. Ou j'ai 40 ans. Allez, 40 ans, c'est quand même, on est un peu plus sage quand même. J'ai 35 ans, 30 à 35 ans, je suis marié depuis 7 ans. J'ai deux enfants. J'ai deux enfants. Malala est mon maman et mon maman est en CM2. Il a 7 ans, 8 ans. Je dis ça au hasard, d'accord? Est-ce que je suis encore capable d'accepter des conseils de mes parents? Ma maman me dit, hein, votre maman, elle est mal élevée, hein. Franchement, elle m'appelle du casotte comme ça, hein. Revois, hein. Et si elle dit ça à votre épouse? Tiens, comme ça, où est du coup des enfants? Mais ma pas donné l'habitude là, mon bel enfant, moi. Et l'épouse, elle s'emporte. Elle dit, on l'a vu qu'on m'y cause avec moi, ou règle ça, sinon il vient plus chaud de moment, moi. Il mange plus la balle, le joie du suivant, puis la couleur de moment. Situation conflictuelle. J'ai deux enfants, je me sens capable de les donner l'éducation qu'il faut. Mais mes parents, ils m'ont élevé, moi, et peut-être j'ai 4 ou 5 ou 6 frères et sœurs, pour eux, ils ont élevé des enfants, ils les ont fait marier. C'est-à-dire, ils ont fait le tour. Ils sont persuadés qu'ils ont le wahi. Ils ont la vérité qui sort de la bouche. Effectivement, ils ont raison. Mais l'enfant aussi a raison d'un sens. Parce que dans le contexte actuel, c'est une parenthèse qu'on ferme rapidement, on n'éduque plus un enfant en 2009 comme on éduquait en 1965. C'est plus les mêmes choses, le contexte a changé. Donc, autre situation conflictuelle. Cela nous fait comprendre que quel que soit notre âge, qu'on soit un jeune homme, qu'on soit jeune marié, qu'on soit jeune parent, ben nous sommes tous concernés par le problème, les relations qui peuvent être conflictuelles quand les parents deviennent âgés, quand les parents deviennent difficiles. Pour ne pas utiliser de termes péjoratifs, quand les parents deviennent difficiles. Alors, très rapidement, bien sûr. Alors, nous ignorons que lorsque les parents sont âgés, ces parents, que ce soit papa ou maman, ils deviennent une mine d'or. Des parents âgés, ce sont des parents qui auront plus besoin de vous. Quand le papa a 80 ans, il a plus besoin de vous que lorsqu'il avait 35 ans. Plus les parents vont vous solliciter, plus ils vous demanderont de leur apporter de l'aide, nous aurons l'occasion d'accéder au paradis plus rapidement. Des parents âgés, mes chers frères, mes chères sœurs, au cas où il y a des sœurs, ce sont là des mines d'or. Celui qui a des parents âgés, le prophète Sassam avait, il y a des mises en garde très sévères là-dessus. Une histoire, on ne va pas tout emmêler aussi, il y avait 3 personnes qui étaient dans la grotte, c'est un hadith connu. Alors il y a une pierre qui est tombée à l'entrée de la grotte. Il fallait que chacun cite l'action qu'il estime être la meilleure de toute son existence. Et si Allah l'avait aimé, avait accepté cette action, alors Allah Ta'ala lui viendra en aide. Chacun citait un cas de figure. Il y avait un jeune homme qui a dit... Les TMC, عند الشيخوخة, j'avais des parents âgés, الشيخوخة, ils étaient vieux, d'accord? Et je fais telle chose, j'apportais, comment on appelle ça, le lait pour eux, j'attendais qu'ils se réveillaient, etc. C'est un hadith connu, on ne va pas rentrer dans les détails. Par rapport au fait que cet enfant avait de la compassion pour son papa et sa maman, qui étaient âgés, comme le hadith le précise, Allah Ta'ala a accepté son doigt, et ce fut là la meilleure des actions peut-être qu'il a accomplie de toute sa vie. Et Allah Ta'ala a envoyé Nusrat, hein, avec ses 2 autres personnes, par rapport au fait que cette personne a évoqué son attitude remarquable et exemplaire avec des parents âgés et surtout sa patience avec des parents qui s'étaient endormis. Comme si que le papa promettait aux affaires quand ça voyait finir le sommeil. Nous, quand on fait, lève-toi, quoi il veut dire là? On l'a dit, moi, attends, maintenant, mais il est là. D'accord? Non. Il a vu que ses parents dormaient. Cet enfant a attendu auprès du lit de ses parents avec ce verre de lait, si je ne me trompe pas. Il n'a pas réveillé ses parents jusqu'au petit matin. Et là, il a donné le lait à son père et sa mère. C'est une réaction exceptionnelle qu'Allah Ta'ala a appréciée. Ils ont eu l'aide d'Allah par rapport à ça. Également, lorsque... Vous savez l'histoire de Youssouf alayhi salam, lorsqu'il voulait retenir Binyamin auprès de lui. Alors les frères, qu'est-ce qu'ils ont dit immédiatement? Ils voulaient toucher le cœur du prince, de ce roi. Ils ne savaient pas que c'était Youssouf. Il a dit, Inna lahu aban shaykhan kabira. Il veut dire quoi? Il dit, laisse-le partir, parce qu'il a des parents, il a un père, il a un papa qui est vieux. Les Moufassine disent quoi? Qu'à travers toutes les époques, toutes les générations, Youssouf alayhi salam, ça date de combien de siècles? Je ne peux pas vous dire, peut-être 22, 23 siècles, à peu près, Wallahu a'lam. À toutes les époques, l'être humain a toujours compris qu'une personne qui a des parents âgés se doit de se trouver auprès de ses parents âgés. Parce que lorsque les parents sont âgés, ils ont besoin, ils doivent être, leur fils doit être moulazim, doit être auprès d'eux en permanence. Taïb? Également, si le verset du Coran spécifie bien Imma yablughanna, verset que Mufti Yassine avait cité, Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma ou kilahuma, si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi. Il est stipulé la vieillesse. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est à ce moment-là que les parents auront le plus besoin de leurs enfants. Et mes chers frères et mes chères sœurs, même si nous ne sommes pas alim, même si nous ne sommes pas mufti ou cheikh ou le hadith. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 7 ans dans un Darul Uloum pour comprendre que nos parents, comme Mufti Hassan a dit, représentent tout pour nous. Abu Layth Samarqandi, qui a vécu en l'an 300 de l'Hégire, et il dit une parole en arabe qu'on va dire en français très rapidement, c'est une parole merveilleuse. Elle dit que même si Allah Ta'ala n'avait pas cité une seule fois de le Coran qu'un enfant se doit d'être respectueux envers ses parents, il dit qu'un homme intelligent, doué de logique, il comprend de lui-même qu'il est inconcevable qu'un enfant n'ait pas de respect envers ses parents. Et maintenant, que dire, il continue la citation, que dire maintenant quand on voit le nombre de fois où Allah Ta'ala évoque le respect des parents, et que dire que quand on voit que dans la Bible et dans la Torah, la Taurat, et dans le Coran, bien sûr, dans tous les livres révélés, Allah Ta'ala parle du respect des parents, et que tous les prophètes ont eu cet ordre de la part d'Allah d'être respectueux envers leurs parents. Mais malheureusement, mes chers frères et mes chers sœurs, nous ne réalisons pas. Beaucoup d'enfants, d'adolescents, ou de jeunes mariés, ou de parents, jeunes parents, qui ont des parents âgés, ne comprennent pas que ces parents peuvent leur procurer le paradis direct. C'est votre billet, votre ticket pour le Jannah. On va plutôt donner priorité à ma carrière, mes études, mon émancipation personnelle, ma vie de couple. Ma vie de famille est plus importante que la fréquentation de mes parents, que papa, maman. Je préfère qu'ils habitent loin, qu'ils habitent en face de moi, ou inimaginable d'accueillir mon père ou ma mère sous mon toit. Cela perturberait l'ordre qu'il y a dans ma famille. Na'oud billah. Na'oud billah. Alors là, on va employer une servante, une aide ménagère, comme on appelle ça. Il y a un terme spécifique, je ne sais plus, une assistante sociale ou quelqu'un qui vient à domicile. Il va s'occuper des parents. Mais on réfléchit un petit coup là. Les récompenses qu'Allah Ta'ala promet dans le Coran, c'est pour les enfants ou bien pour la servante? C'est pour les enfants ou l'assistante sociale? Wallahi, si nous déléguons ce travail exceptionnel qui est d'être au service des parents, nous déléguons à une assistante sociale, à une servante, à une énaine, comme on va l'appeler, ben nous avons perdu une ligne directe, un accès direct au Jannah. Et c'est vraiment la plus grande des pertes qu'un musulman peut subir. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de perdre. Et pire encore, un enfant, jeune homme, jeune marié, jeune parent, qui abandonne ses parents, qui ne donne aucun intérêt à ses parents, il n'imagine pas qu'est-ce qu'il encourt comme punition. On va pas dire les punitions, on va dire tout le temps, on est là pour faire peur. Hadith d'Abu Huraira, Boissam m'a dit que malheureux, cet homme, c'est-à-dire ce musulman, adraka abawayhi indal kibari ahadihima ou kilayhima, falam yudkhil al jannah. Cette personne qui avait des parents âgés et qui n'a pas su obtenir le paradis par le biais de ses parents. Ça veut dire que si on a des parents âgés, comme on a dit tout à l'heure, wallahi l'azim, vous faites le khidmat de ces gens, c'est votre passeport, votre ticket direct pour le Jannah. Et pire encore, le prophète a monté sur le mimbar, Mufti a dû citer ce hadith, Amin, le hadith très connu, la malédiction de l'ange Gabriel, Jibril salam, le meilleur des anges, que le prophète salam a accepté, il a dit Amin, la meilleure des créatures a dit Amin pour cette malédiction. Dans la meilleure des terres, Madina Munawwara, sur le mimbar de la Madina Nabawi, malédiction pour cette personne, Man Adraka Abawayhi, qui a vécu et qui avait des parents âgés et qui n'a pas eu le respect envers ses parents pour accéder au paradis. Le Prophète sallam a dit, et Jibril a dit, fa'ab'adahu Allah, qu'Allah l'éloigne. Le Prophète sallam a dit, Amin, malédiction de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, pour cet enfant, ce jeune homme, ce fils, ce jeune marié, qui a des parents âgés et qui n'obtient pas le paradis. Mes chers frères, c'est extrêmement grave ce que nous constatons, le manquement que nous constatons de la part de cette nouvelle génération ou même des générations intermédiaires. Parce qu'alhamdoulilah, les anciennes générations, ils avaient le respect. C'est de la génération de 40 ou 45 ans, selon les constats, ça commence à se perdre, et de cette génération, hadith wala haraj, wallah musta'an. Taïb. Et le manque de respect, comme Mufti Sahab a dit, ça fait partie des péchés majeurs. Un sahabi au prophète d'Allah, dis-moi, quels sont les plus graves des péchés? Le prophète Sahab a dit, le shirk, et ensuite, uququl walidain, la désobéissance envers ses parents. Taïb. Et il y a un hadith exceptionnel hein, en commentaire. Un verset dit que si law alim Allah shay'an min al-'uquqi adna min uf, en commentaire de fala taqul lahumā uf. Ce verset très connu. Il dit que si Allah Ta'ala savait qu'il existait un mot moins grave que ouf en français, on pourrait dire D'accord? Ça, c'est des onomatopées. Chaque langue a ses manières d'exprimer. Si Allah Ta'ala savait qu'il existait un terme moins grave que ouf ou que le pff, d'accord? Allah Ta'ala l'aurait également interdit. Et puis il dit que فَلْيَعْمَلْ الْعَاقُ مَا شَاءَ يَعْمَلْ فَلَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Celui qui désobéit à ses parents, il peut faire ce qu'il veut comme bonne action. Il dit, allez, faites autant de bonnes actions que vous voulez. Si vous désobéissez à vos parents, فَلَنْ, il n'accédera pas au Jannah. Autant d'actions qu'il pourra faire, il n'accédera pas au paradis. Et il y a une parole, je pense qu'on va terminer là-dessus, une parole merveilleuse de Mujahid, qui est le cheikh d'Ibn Kathir, grand commentateur du Coran. C'est une parole en or. Pour lui, le tafsir, mais ce tafsir c'est trop compliqué, jamais on ne pourra pas faire. Il dit qu'on ne pourra pas mettre ça en pratique. Comment est-ce qu'il commente Fala taqullahuma ouf? Il dit que si vos parents sont âgés et qu'ils sont malades et qu'ils n'arrivent plus à se retenir, leurs muscles ne répondent plus, qu'on dit en termes médicaux, ils sont atteints d'incontinence urinaire, ou même fécale, que les parents ils font leurs besoins dans leurs vêtements. Nettoyez, ne dites pas ouf lorsque vous allez donner la toilette, vous allez nettoyer vos parents. Mais pensez comment vos parents, lorsque vous étiez petit, ils nettoyaient de nos gens, on dit les couches, comment ils s'occupaient de vous pour votre toilette intime et jamais ils disaient ouf. Ça, c'est dur, ça. Pour Mujahid, le fait de ne pas dire ouf, c'est pas juste quand les parents ils vous disent des trucs déplaisants. C'est quand vos parents sont âgés et qu'ils n'arrivent plus à se retenir pour leur toilette, vous allez nettoyer, vous allez baigner vos parents sans même soupirer. Ça, c'est ce que Mujahid il dit sur le sens de ouf. Maintenant, en quatre phrases, comment agir correctement vers ses parents? Je vous dis, il y a un menu costaud. On ne peut pas faire ça, wallah, c'est difficile. Certains on peut, mais à nous de voir, lorsque je vais citer, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Tout ça, c'est les ulama qui disent, ne jamais appeler ses parents par leur nom. Papa appelle Yacoub ou Ismaël, il dit pas été Yacoub ou Ismaël, ça ne se fait pas. On n'appelle pas nos parents par leur nom. Alors, n'en parlons plus, ceux qui disent à leurs parents, t'es le vieux, ou alors maman, la vieille, ça c'est inconcevable. Mais quel cœur il y a dans cet être humain pour appeler son père le vieux ou la vieille? Quelle que soit la langue, qu'on parle en anglais, en espagnol, en chinois ou autre chose. Même avec nos amis, là qu'on parle directement, même avec nos amis, parfois il y a des enfants, ils ne disent pas ça à leurs parents, mais entre camarades, peut-être c'est pour épater l'autre, pour faire, comme on dit, le coq. T'es, ça va, le vieux là, la vieille dit, allez acheter le pain, allez faire les courses. Wallahi, ça ne se fait pas. Il y a le hadith qui dit, Abu Huraira avait vu un homme marcher derrière un autre homme. Elle dit, qui est cette personne? Elle dit, ça c'est mon père. Elle dit que la tada'u bismi, ne l'appelle pas par son nom. Et ça c'est dur. Ne t'assois pas avant lui. Vous arrivez à un endroit, un enfant ne doit pas s'asseoir avant ses parents. Qui c'est qui fait ça aujourd'hui? Taïb. Wala tamshi amama, et ne marche pas devant ton père ou alors devant ta mère. Autre chose, en commentaire de hadith, il dit, ça c'est Mujahid toujours, il dit que ne présentez jamais un visage, comment on pourrait dire, antipathique ou déplaisant à vos parents. Il arrive parfois, la bataille avec Madame Lacaze, on a un problème avec l'école, les enfants, ou alors que les parents ils vous agacent un petit peu. Même si on ne dit rien, il a dit qu'il ne faut pas quand vos parents vous voient, ils détectent à travers votre regard que vous êtes agacé. Et personne ne connaît mieux ses enfants que les parents. Quand votre enfant est malade, vous voyez dans son regard. Il dit, présentez toujours un visage souriant à vos parents. Ne les tournez pas le dos. Dans le sens où vous êtes agacé, dites, bon, c'est bon, on verra ça après, et vous tournez le dos. C'est-à-dire, même les signes qui sont un peu plus subjectifs, le rosa est fatigué là, c'est l'heure de se reposer. Même les signes qui sont plus subjectifs, là aussi, il ne faut pas les montrer en présence des parents. Et qu'est-ce qu'Allah nous demande? De les dire « qawlan karima », des paroles respectueuses, remplies d'amour et d'affection. Quand on regarde, ils disent même, un enfant ne doit pas regarder les parents fixement. On ne regarde pas ses parents dans les yeux quand on parle. Ça, c'était les habitudes des anciens. Quand papa il cause des coups, il baisse les yeux. Maintenant, si on dit que ça ne fait plus partie des habitudes de nos jours, bon, si on ne voit pas à travers ça un signe de respectueux, ça va. Mais à nous d'analyser, comment est-ce que je regarde mes parents? Est-ce que ça m'arrive de regarder mes parents avec un regard énervé, agacé? Encore les mêmes, quand il va encore montrer un visage antipathique. Par quel terme je m'adresse à mes parents? Tout ça, nous devons réfléchir. Parmi les choses que nous devons faire, rendre visite. Combien de jeunes ou alors de personnes mariées ne rendent plus visite à leurs parents? Vous savez, il y avait le diplomate saoudien qui était là, Cheikh Ali Hafidahullah. J'avais amené à Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est 100 km. Il n'y avait pas la Tamarin encore. Alors il me dit, je lui dis que c'est très loin, on va à Saint-Pierre, 100 km. 100 km, c'est quoi 100 km? Il a dit, ma maman, il habite à Riyad, ma maman habite dans un petit village, c'est à 50 km. Tous les soirs, après Isha, je vais voir ma maman, mais ça n'a pas mangé, ça n'a pas calé. Hein. C'est pas qu'elle fait bon manger, mi vient, c'est pour bon manger. Ça, elle a fait la pâte, non, ben, j'ai dû me l'occuper. Ah, elle a fait un bon curry, bon, mi vient, hein. Non, mi vient, non. Elle dit, tous les soirs, je vais voir ma maman après Isha, j'embrasse ma maman sur le front et je rentre chez moi. 50 km aller, 50 km retour. C'est comme si on a fait la distance jusqu'à Saint-Pierre. Je me dis, subhanallah, si seulement Allah pouvait nous donner quelques qualités comme ça. Et dernier hadith, après, moi, les bagats prendra la parole. Une fois, et il dit également, quand vos parents vous font des reproches, même si c'est virulent, ne jamais argumenter, même si vous avez raison, ne pas dire non mais m'a la fait moi, ma vie déjà où ça, ne t'es fini causer avant, non, histoire de Aïcha radiallahu anha, elle était qui l'épouse du prophète sallam, une fois ils étaient en voyage, je ne sais plus de quelle campagne, elle avait perdu son collier, d'accord, et elle cherchait, le prophète sallam était obligé de rester avec elle ainsi que d'autres personnes pour chercher où était ce collier. Alors certains musulmans étaient mécontents, elle dit voilà, à cause de Aïcha tout le monde est ralenti, le prophète est obligé de dormir à cet endroit, il n'y a même pas d'eau. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas de problème, c'est quoi? Demain, Fajr, ils ne pourront même pas faire wuzu. Qu'est-ce qu'on va... C'est quoi ça? Ils ont été voir Boubacar, dit, tu as vu? Qu'est-ce que Aïcha, elle fait à cause d'un collier perdu? Elle oblige le prophète de rester avec elle. Alors, Boubacar était furieux. Elle va voir Aïcha. Aïcha, c'est sa fille, je le rappelle. Et le terme du hadith, j'aurais aimé le dire en arabe, mais on a dépassé un peu le temps. Fa'atabani, on le dira quand même. Wa qala ma sha Allah wa yaqul wa ja'ala yut'inuni bi yadi. Adi Abu Bakr, adi mon père, il m'a tellement apostrophé en me menaçant avec ses doigts au niveau donc de mon visage, et en aucun cas Aïcha n'a répondu. En aucun cas elle a argumenté. Elle est mariée, c'est plus un enfant. Et elle n'a pas dit, hey, à moi, madame Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, n'oublie pas que je suis l'épouse préférée. Jamais. Elle n'a pas dit non plus que mon mari est d'accord. Si elle avait dit ça, Abu Bakr n'aurait plus d'argument. Si le prophète décide quelque chose, on obéit. D'autant plus Abu Bakr. Elle aurait pu dire que, oui, pour ne pas content, mais Nabi Karim, prophète d'Allah, est d'accord qu'on reste ici pour chercher le collier que j'ai perdu. Elle ne l'a même pas dit. Elle m'a dit, comprenez à travers cette histoire que même si vos parents vous apostrophent à tort, un enfant, quel que soit son âge, n'a pas le droit de répondre, ni d'argumenter, même s'il a 100% raison. Kalata, mes chers frères et mes chères sœurs, nous donne tawfiq de comprendre. Vous savez, il y a une petite anecdote, ça c'est vraiment exceptionnel. C'est ce genre de parole qu'on doit écrire en lettres d'or, qu'on doit apprendre par cœur. Ça rejoint le hadith que Mufti Hassan avait dit. Il y avait un autre cas, une personne a dit, il dit au prophète d'Allah, ma maman habite avec moi, elle est vieille. Je lui donne à manger avec ma main. Je le fais boire parce qu'elle est âgée. D'accord? Et quand elle a besoin de sortir, je porte ma maman sur son dos. C'est bon maintenant? Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Le prophète me dit, non, même pas le centième de ce que tu devais faire. Mais ce que tu as fait, c'est bien. Tu as bien agi. Pour ça, m'a pas dit que tu t'es acquitté de tes droits. Tu as bien agi avec ta maman. Et Allah Ta'ala te récompensera beaucoup pour le peu que tu as fait. Nous, on est à des milliers de kilomètres de ça. Qu'Allah, wallahi, si Allah n'a pas pitié de nous, nous avons tous notre passeport pour le Jahannam. Parce que le Prophète m'a dit, là, il y a trop le Jannat Aq. Celui qui désobéit à ses parents n'entre pas au paradis. Les ulama disent, comment ça se fait si les mu'mines, elle dit qu'Allah Ta'ala lui accordera sous le khatima, une mauvaise mort. Wallahi, qu'Allah nous protège. Et dernier point, vous connaissez, il y a quelqu'un qui s'appelle Muhammad ibn al-Munkadir. C'est un des tabi'in, c'est quelqu'un, un personnage exceptionnel. Il dit, ça c'est une parole, ça il faut apprendre par cœur. Il dit que, le soir, je passais mes nuits à peser les pieds de ma maman. Le terme en arabe est compliqué. Arimizu, il faut chercher dans le dictionnaire. Je pense que ça veut dire masser, peser les pieds de ma maman. Je passais la nuit à faire ça. Et mon oncle, qu'est-ce qu'il faisait? Toute la nuit, il faisait tahajjud. Il a dit, jamais je n'échangerai sa nuit contre ma nuit. Sachant qu'est-ce que j'ai. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.